Est-ce que vous pourriez vous présenter?
Ouais, bah moi c'est Sébastien, je viens de France.
Sylvie, moi aussi, je viens de France.
Nous voulions parler des espaces collectifs, de la nécessité de création d'espaces, pourquoi nous créons des espaces, comment on pense la lutte de manière territoriale. J'aimerais bien vous entendre sur vos expériences de création d'espaces.
Moi j'en ai pas tant que ça, mais après... Moi, sur un truc au moins très simple, ce que je trouve intéressant sur le fait d'avoir des espaces, c'est que c'est des endroits où les espaces, par exemple, publics, on va dire, ouverts, quoi. C'est au moins des espaces qui permettent pour les gens de se croiser, de se rencontrer, et peut-être à partir de là, de faire d'autres choses, quoi. Des fois, ça donne une impression un peu parfois décevante, quoi, de ces espaces-là qui sont tellement ouverts qu'on croise un peu tout le monde, et il n'y a pas forcément toujours quelque chose qui se cristallise à ce moment-là, mais c'est, moi j'ai l'impression qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles.
Et puis, moi j'ai l'impression, enfin, en tout cas pour ce qui est des espaces collectifs ou des squats en France, enfin, au moins ceux que je connais ou auxquels j'ai pu participer, c'est aussi une manière de, enfin, notamment pour les squats. Enfin, il y a la question matérielle qui est importante et c'est une manière de ne pas payer de loyer, de travailler moins et donc d'avoir plus de temps et en fait et de faire ça collectivement. En fait, c'est bien plus intéressant parce que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'autonomie et ça permet aussi de toujours plus de temps pour des discussions, des réflexions, pour comme participer à une lutte. Moi, c'est aussi un des intérêts que je vois vraiment dans le fait d'avoir des espaces collectifs, que ce soit des squats ou alors des colocations. Je sais que des fois, ça se fait en France de louer un grand bâtiment à un certain nombre de personnes pour en faire des espaces d'habitation pour un certain nombre de personnes qui vivront là. Et puis aussi des ateliers, des salles de réunion, une bibliothèque, plein d'autres ateliers de mécanique, de couture, des studios de répétition, etc., etc.
Ouais. Disons que c'est des appuis matériels pour soit des projets en cours, soit des moments dans une vie, où, voilà, c'est ça l'intérêt que je vois aussi.
Mais, j'aimerais ça savoir comment vous en êtes venu à vivre dans les squats.
En ce moment c'est un peu compliqué parce que moi, je suis pas dans un squat, mais de fait c'était pour un truc très simple, quoi, c'est que de payer un loyer, ça devenait un peu compliqué, donc il y avait cette raison là et puis il y a aussi l'envie de d'habiter à plusieurs. Moi ça me paraît plus intéressant que d'habiter seul ou même à deux, quoi. Plus intéressant parce que des fois c'est plus, ça complique la vie quotidienne, mais des fois ça la facilite et permettre plus de possibilités tant sur le quotidien que sur les, ouais, ce que j'ai un peu, ce que je disais tout à l'heure déjà, sur les rencontres ou sur les possibilités de s'organiser pour faire certaines choses, quoi. Disons que c'est moi j'ai l'impression que c'est des espaces qui quand on est à plusieurs qui ouvrent des possibilités et pour nous et pour d'autres, quoi, et pour se filer des coups de main rien que pour des une entraide de base ou quelque chose comme ça, quoi.
On sait que, enfin, on a vu qu'au Canada, Québec et tout ça, c'était pas évident de squatter parce qu'il y avait le poids de la propriété qui était vraiment très très fort et que là, on a vu avec le CSA là, qui s'est fait expulser au bout de 20 heures, alors que ça faisait 2 ans qu'il y avait un grand nombre de personnes qui travaillaient pour ouvrir, qui passaient du temps et de l'énergie pour ouvrir ce lieu. Après, en France, c'est un peu plus facile, mais parce qu'il y a quelques trucs qui protègent un peu les locataires ou le droit au logement, je sais pas quoi. Mais il y a plein d'ouvertures de squats qui se voient soldées d'une expulsion très rapidement. Je ne sais plus, 3 tentatives de suite. Tu passes 2-3 mois, 4 mois à faire des repérages, à voir comment tu vas l'ouvrir, tout ça, à te préparer. Et puis en 2-3 jours, en fait, les flics, bah des fois ils respectent un peu la loi, puis des fois ils la respectent pas. Et puis, enfin, à Paris, par exemple, j'ai l'impression qu'ils la respectent pas. Dès qu'ils ont l'accord du propriétaire, ils respectent pas, ils préfèrent nettoyer la place de Paris, de tous les squats. Après, les villes alentours, la banlieue proche, là, c'est plus facile. Mais c'est pas un truc qui est hyper facile non plus, quoi. Il y en a, ils font 10 ouvertures avant de. Après, de faire la bonne ouverture, qui là durera 2-3 ans. Ou moins, ouais. Souvent, ça, les durées de vie pour les squats, c'est. Quand ça tient, c'est. Je sais pas, entre 6 mois et un an, quoi, en moyenne. Un an et demi, je sais pas.
Par rapport à ça, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience ici à Montréal, du centre social autogéré, qui a duré une journée et demie?
Moi, je trouvais que ça avait l'air assez impressionnant au niveau de la préparation, de tout ce qu'il y a autour de ce projet, la volonté de regrouper, j'ai l'impression, pas mal de gens différents, etc. Donc ça, je trouvais ça assez étonnant, et même le monde qu'il pouvait y avoir pour s'ouverture et tout. Après, nous, c'est vrai que voilà, du coup, on n'a pas les mêmes cadres juridiques, etc. Du coup, bon, c'est peut-être un peu différent, et on n'a peut-être pas les mêmes polices non plus. Mais moi, j'étais peut-être un peu surprise sur la manière dont s'est défendu le lieu, je pense qu'il y avait deux choses. C'est qu'il y avait beaucoup de monde qui était appelé, mais moi, je me sentais plus spectatrice que réellement une possibilité d'intervenir là. Bon, c'est vrai que moi, je déboulais, quoi. Je reste pas ici longtemps, et donc voilà. Mais j'ai trouvé que c'était pas forcément évident de réussir à prendre sa place, et du coup, c'était pas évident ensuite de savoir comment réagir quand la police était là, comment même essayer de l'empêcher de rentrer, comment à l'intérieur ils allaient se défendre et tout ça. Je me disais que s'il y a une prochaine tentative, il y aura peut-être à réfléchir là-dessus, comment réussir à mieux se coordonner ensemble, comment trouver une meilleure énergie pour résister face à l'expulsion, qui effectivement a beaucoup plus de chances d'arriver apparemment ici que chez nous, quoi.
Après cette histoire-là et l'expulsion aussi du CSA, machin, je me disais peut-être pour être... Parce que là, on avait l'impression qu'il y avait vraiment la volonté d'être dans un quartier et d'être appuyé par le quartier et un appui futur pour le quartier, notamment par rapport aux questions de condos, de gentrification, tout ça. Mais peut-être que le truc, c'est d'être... au lieu d'avoir un point central dans le quartier, peut-être c'est d'avoir plein de petites maisons squattées, des appartements collectifs loués, et puis peut-être c'est une autre manière de faire un espèce de... Enfin, c'est plus un centre social, vu qu'il y a plus, c'est plus central, c'est plus un centre. Mais c'est aussi une autre manière, moi, d'être dans le quartier, d'être dans le territoire, comme tu disais au début, là.
Est-ce que vous parlez de qu'est-ce que c'est que quels sont les milieux libres, en fait? Parce qu'il y a quelque chose qui semble vous intéresser.
Bah après, milieu libre, c'est un terme qui a été un peu utilisé en France, quoi, mais qui est assez daté, quoi, qui date des années 1900, et je pense était assez ambitieux dans les termes même, puisque on utilisait le terme milieu un peu comme on utilisait le terme système chez nous, quoi. Enfin, en gros, on voulait créer un milieu à côté de celui qui pouvait exister déjà et qui soit donc libre, quoi. Et donc c'est des expériences qui ont eu lieu au début du 20e en France, quoi. Pas mal de lieux, enfin quelques lieux collectifs qui ont été créés. Moi, ce qui m'avait intéressé dans ces lieux-là, c'est que c'est évidemment par rapport au questionnement que ça peut apporter maintenant, et j'avais l'impression qu'on pouvait déjà y voir des formes qu'on peut voir aujourd'hui sur les lieux collectifs. Et donc, pour dire rapidement, il y avait des gens qui étaient plus axés sur une volonté d'une libération individuelle, quoi. Donc vraiment de changer leur vie Et donc ça pouvait passer par différents moyens, c'était pas forcément juste la vie collective, c'était aussi une réduction des besoins, mais aussi des pratiques illégalistes, quoi, fausse monnaie ou autre. Il y avait d'autres qui étaient plus, qui avaient plus réussi à créer un lieu qui était vraiment imbriqué dans un milieu ouvrier, enfin ils s'étaient installés dans un endroit où ils ont vraiment servi d'appui aux luttes ouvrières, quoi, qu'il y avait à cette époque-là, qui était assez forte. Donc notamment en ayant une imprimerie, en faisant des réunions là-bas, ils avaient beaucoup de contacts, beaucoup de liens, quoi. Et eux, par ailleurs, ils étaient aussi dans une logique qui se libérait d'un patron et qui pouvait vivre par leurs propres moyens, tout en étant en appui pour les luttes ouvrières locales. Et oui, et dans cela, ils ne se différenciaient pas forcément. Enfin, ils étaient vraiment. Moi, ce qui m'intéresse dans cette période-là, c'est qu'il y avait vraiment une logique où, finalement, les luttes n'étaient pas si séparées des expérimentations qu'il pouvait y avoir ou des réflexions sur le mode de vie, quoi. Donc, c'était assez. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et puis, il y avait aussi encore une autre un peu tendance, on pourrait dire, qui se disait plus insurrectionnelle, quoi. Et donc, qui était vraiment dans une espèce de chose où ils voulaient apporter l'insurrection dans chaque moment de leur vie, quoi. Donc, dans le quartier où ils étaient, eh ben, ça s'exprimait par tout un tas de choses. Bon, il y avait souvent des bagarres avec la police, avec les contrôleurs dans le métro, mais ils avaient aussi des réflexions sur l'avortement, la contraception, et donc l'amour libre. Et on avait l'impression qu'en fait ils avaient commencé par une critique du travail pour aller au-delà sur une critique de la vie quotidienne et dans tous les aspects de leur vie quotidienne réfléchir comment ils pouvaient finalement vivre leur vie mais sans se mettre à l'écart quoi en continuant à être offensif quelque part quoi et du coup moi c'est ces différents aspects-là que je trouvais intéressant et par rapport à maintenant, où j'ai l'impression que, ouais, qu'il faut qu'on. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de réussir à trouver cette possibilité d'être à la fois dans une réflexion sur la manière dont on veut vivre maintenant, quoi. Voilà, en se détachant de tout ce qui nous tient, que ce soit au travail, mais aussi dans notre vie quotidienne.
Ou à l'école.
Ou à l'école, oui, c'est vrai. Et, ouais, trouver ces moyens, tout en imaginant ça pas comme un retrait, quoi, mais vraiment comme une possibilité de poursuivre une logique de changement social plus général ou de lutte plus générale, quoi.
Bah, d'après moi, ce que j'ai un peu compris là, sur ces histoires d'anarchistes au début du XXe siècle qui essayaient de vivre collectivement, quoi, c'est que. C'est à peu près les mêmes questionnements qu'on retrouve dans les milieux de vie, enfin dans les lieux collectifs ou les aujourd'hui quoi. Enfin sur plein de questions, c'est à peu près. C'est amusant. En même temps, on voit qu'on est toujours confronté aux mêmes limites. En même temps, on voit qu'il y a quelques différences et puis peut-être que ça rend un peu plus humble aussi. C'est-à-dire ça donne l'impression de pas avoir tout inventé en fait, des gens qui faisaient exactement la même chose il y a un siècle. Et puis il devait encore y en avoir d'autres avant, et puis il y en aura encore d'autres après. Mais...
Moi, si je veux bien juste rajouter un truc, moi ce que je trouvais vraiment impressionnant sur cette période-là, c'est qu'il y avait une réflexion assez forte sur l'individu, et en même temps, ils n'étaient pas. Parce qu'on parle beaucoup d'individualisme aujourd'hui, mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, ils étaient vraiment embarqués aussi dans des projets collectifs. Mais quand je dis projets collectifs, c'est pas des petits groupes affinitaires seulement ou quoi. C'est aussi qu'il y avait une vision du monde où, qui se partageait entre les exploiteurs et les exploités, quoi. Et du coup, ils étaient clairement partie prenante de cette partie des exploités, tout en affirmant leur individualité au sein de ce parti-là, quoi. Et donc c'est pas pour dire qu'il faudra à tout prix reproduire ça maintenant, mais j'ai l'impression que actuellement on manque et d'une possibilité d'avoir des individualités qui s'expriment et d'une lecture plus collective de la société dans laquelle on est, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je dis pas qu'il n'y a plus d'exploiteurs à l'exploiter, mais qu'en tout cas tout ça c'est bien brouillé et qu'on a du mal à lire et voir ce qu'on partage avec d'autres et voilà. Quelque chose comme ça.
Comment on fait pour en faire en sorte que le squat, au-delà d'un espace où certaines personnes vivent, qui sont plus ou moins collectifs, soit un élément de lutte dans un quartier, qui s'unit vraiment de façon organique avec son quartier, plutôt que de s'isoler, parce que c'est aussi une critique qu'on fait souvent des squats ou des espaces collectifs dans les appartements loués, qu'ils ont tendance à se recroquevillés sur eux-mêmes parce qu'ils s'assurent d'un certain confort social pour des gens qui aiment vivre entre eux ou entre elles.
Vaste question. Bon.
Moi, je sais pas trop non plus, mais c'est vrai qu'on fait souvent le reproche d'un repli ou truc identitaire et tout, mais j'ai pas vu beaucoup de lieux qui arrivaient forcément à sortir de ça, quoi, de ce reproche-là. Mais malgré tout ce qu'on peut vouloir, même si on veut pas retomber là-dedans, j'ai l'impression que c'est un peu difficile, quoi. Mais j'ai l'impression que il y avait des amis qui avaient, mais je veux pas parler en nom, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des amis qui y arrivaient peut-être en imaginant comment ils s'imbriquaient dans une lutte sur le logement, ou en étant vraiment installés dans un quartier où justement ils étaient en train de nettoyer tout le quartier.
De gentrifier,
ouais. Et que du coup, ils squattaient avec une optique de lutte vraiment sur le logement, quoi. Et donc, à la fois sur une logique d'obtenir des relogements et en même temps de lancer des questions sur le logement dans ce quartier-là. Et voilà. Donc ça, c'était un exemple, quoi. Mais bon, évidemment, ça n'a pas duré. Et puis, il y a eu des limites sur certaines choses qui sont apparues. Et après, moi, je me dis peut-être par rapport à ce que tu disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est peut-être plus intéressant quand il y a différents espaces qui se côtoient, quoi. Et du coup, c'est peut-être plus facile développer des projets différents avec des gens différents et...
De toute façon, c'est... Moi, je crois que ça dépend de l'environnement dans lequel t'es. Je sais, enfin, j'y suis jamais allé. A priori, à Athènes, en Grèce, dans certains quartiers, il y a des dizaines de lieux collectifs, d'ateliers, de petits locaux pour faire des bibliothèques, des machins et tout ça. Je crois à Barcelone aussi, dans certains quartiers. Enfin, Barcelone, c'est connu pour être une des villes les plus squattées du monde, quoi. Enfin, squat politique, quoi. Enfin, et donc oui, bah, quand il y a des dizaines de petits lieux différents au même endroit, quand même dans la culture du quartier, il y a une culture de lutte ou de je sais pas quoi. Bah là c'est forcément c'est plus simple. Après je sais pas trop ce qu'il faut faire pour parce que après il y a l'optique effectivement un peu maoïste entre guillemets. Là, on va aller dans un quartier et puis on va faire plein de trucs sur le logement, sur je sais pas quoi, sur... Des fois ça marchera, des fois ça marchera pas. Tu sais pas. C'est tout l'équilibre à trouver entre l'espèce de volontarisme et les conditions environnantes qui font que qu'en fait, enfin je sais pas, c'est, tu peux être hyper volontaire, machin, et même l'être trop, ça, personne comprendra ce que tu feras avec ton espace collectif autour. Et puis le truc opposé, inverse, c'est tu fais ton petit truc soit tu connais personne, ou alors les gens ils te prennent pour des fous, je sais pas.
Ouais. Bah après moi ce que j'ai l'impression c'est qu'aussi il y a des fois des lieux où je pense que les gens s'imaginent que si tout le monde vivait comme eux, tout changerait, quoi. Ouais. Du coup dans des squats aussi. Et ça, moi, j'ai un peu de mal à comprendre parce que je vois pas trop où ça va, et puis j'ai pas l'impression j'aurais peut-être pas la prétention de me dire que ma vie est un exemple pour tous et que c'est ça, dans cette voie-là qu'il faut aller, quoi. Mais par contre, ce que je me dis plus maintenant, c'est peut-être qu'effectivement, il faut partir de nos pratiques. Par exemple, le logement, ça peut être une lutte volontariste, mais ça peut être aussi simplement que toi, tu galères pour te loger, donc tu pars de tes propres conditions, et puis t'essayes de voir avec d'autres comment répondre à cette question-là, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut se décliner sur d'autres choses, dans lesquelles on est coincé, et que finalement, si on part de là, et donc qu'on a un certain, qu'on essaye de développer des pratiques pour faire les choses par nous-mêmes et s'organiser là où on est, et ben c'est peut-être là où on peut peut-être rencontrer d'autres personnes et puis ouais, partir de ces pratiques d'entraide.
Et puis pas avoir forcément l'impression d'être dans des conditions d'existence complètement différentes de tous les voisins environnants. En fait, d'être juste un habitant, un groupe d'habitants qui ont un peu du mal à se loger, mais comme plein d'autres gens dans le quartier, parce que c'est un quartier populaire, pauvre. Et puis, t'es un parmi d'autres. Après, tu rencontres des gens, tu vois ce qui est possible de faire avec les voisins, les machins. Des fois, il y a rien qui est possible, des fois, les trucs sont possibles, des fois, c'est très très bien. Puis...
Sans pour autant nier qu'on vient pas forcément tous des mêmes milieux, ou qu'on n'a pas tous eu forcément les mêmes vies ou les mêmes parcours, mais au moins partir de ces pratiques un peu de réappropriation de nos vies ou des espaces. Et puis, ouais.
Est-ce que vous auriez des références de lecture ou d'image ou peu importe, de quel support, mais des références sur le milieu de vie, les milieux libres, les squats, les espaces collectifs? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit, par exemple, par rapport à ce genre de pratique qui pourrait être lu ou entendu?
En français, je sais qu'il y a quelques brochures qui existent sur les squats, et notamment il y a des guides pour comment ouvrir un squat, que ce soit une question pratique, technique ou juridique, policière, tout ça. Après, je sais que des fois en France, il y a des gens qui font des inter-squats, une espèce de réunion entre différents squats, et puis je sais pas trop de quoi ils parlent. Enfin, de leur squat, je pense. Puis des fois, il y a des comptes rendus sur papier. Je sais qu'à un moment, à Paris, il y avait pas mal de squats dans les années 80. Et des squatteurs qui faisaient des journaux de squatteurs, quoi. Je sais plus comment ça s'appelait. Ainsi squat-t-il, je sais pas, c'est des vieux journaux, ça racontait. Enfin là, c'était vraiment sur leur squat, le quartier, la gentrification, puis je crois qu'ils devaient diffuser ça dans le quartier.
C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a soit des bouquins ou des brochures qui vont parler des problèmes de la vie quotidienne, quoi. Donc bon, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est souvent ça se répète, parce que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, quoi. Soit il y a des choses, mais c'est plus quand ces lieux-là ils sont envisagés un peu comme un but, quoi. Et donc moi je trouve que c'est plus intéressant comme ça, quand c'est un moyen. Et donc là, quand ça devient un moyen, finalement j'ai l'impression que il y a moins, ça paraît moins évident de parler de ces lieux-là parce qu'ils sont là, ils sont là que pour comme appui pour d'autres choses, quoi. Du coup j'ai
ça devient plus une question matérielle, pas d'auto-organisation collective autour d'un truc matériel, là, un espace, quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être la même chose autour d'une voiture collectif, quoi. Non, mais j'en sais rien. Donc c'est peut-être pour ça que les gens en parlent pas, c'est que ça leur paraît pas plus intéressant que ça d'en parler. Sauf quand il y a le côté justement identitaire. On squatte, on est des squatteurs et il faut que tout le monde fasse pareil que nous, parce que. Je sais pas, ouais, pas trop. Voilà, il y a des bouquins qui sont sortis sur les squats en France, là. Mais assez.
C'est peut-être pas fait d'en parler.
Assez nul.
Donc on en parlera pas. Il y a aussi des trucs sur les squats, par exemple, dans l'historique des mouvements autonomes en Italie, en France, en Allemagne. Et la connexion qu'il y a entre les mouvements autonomes et les squats.
Sur les squats, je sais pas trop. Il y a des trucs sur les autoréductions des grèves de loyer, là.
Ouais, mais aussi comment les gens occupent l'espace en tant qu'autonome, ou de manière autonome. Entre autres, ce serait Fouquier's, quoi,
n'est-ce
pas? D'ailleurs, c'est un bon endroit pour aller chercher sur ce type d'espace, parce que ce projet Fouquier's.net unit différents espaces aussi, non seulement au niveau virtuel, mais aussi au niveau pratique, de pratique des bibliothèques et d'espace de diffusion collectif et d'un homme. Je peux vous avoir envie d'en parler.
Tu as tout à fait raison.
Parce qu'il faut qu'il y ait une des places qui sont aussi des squats ou des centres sociaux qui ont eux-mêmes des moyens diffusés qui se réseautent à travers ce site web qui s'appelle infocast.net, qui unit aussi différentes villes de France, mais qui a aussi des contacts avec d'autres collectifs ailleurs qu'en France.
Oui, c'est vrai que c'est un bon exemple, mais pour parler des différents réseaux. Enfin, en fait, oui, souvent, j'ai l'impression que les gens qui vont ouvrir des espaces collectifs et avec les multiples activités qu'il y a ou pas à l'intérieur, enfin, souvent, ils sont en connexion avec d'autres ou au niveau d'une ville. Enfin, je sais pas si c'était de ça un peu que tu voulais parler, mais souvent, ça fait, oui, un espèce de réseau. En fait, c'est des réseaux d'entraide aussi, quoi, on va dire. Que ce soit pour les histoires d'infocast, en fait, c'est d'entraide à la diffusion, on pourrait dire. Ou alors, quand c'est des intersquats formalisés ou complètement informels sur une ville, c'est un truc d'entraide de matériel, de coups de main qui sont donnés, tout ça.
Non, moi je suis encore en train de chercher des livres. Mais du coup, j'en ai pas lu beaucoup, mais je me disais, il y a peut-être les livres de Landauer, hein, Gustav Landauer, mais je suis pas sûre. Mais sinon, il y a Martin Buber, mais c'est un petit peu bizarre parce que, enfin, je pense que c'est un auteur un peu particulier, mais il me semble que moi j'avais lu des livres, un livre de lui, quoi, qui s'appelait Utopie et socialisme. Je trouvais qu'il y avait des passages assez intéressants, et notamment sur les questionnements dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, mais j'étais encore partie là-dessus.
Autant, il y a Bolo Bolo aussi. C'est un livre écrit par un Allemand, je crois, dans les années 80. Alors là, il l'imagine de manière assez simple et concrète, une espèce d'utopie anarchiste, quoi. Et donc, forcément, il y a toute la question de l'organisation spatiale, par groupe d'affinité, comment ça s'organise, tous ces lieux-là, tout ça. Après, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je ne me rappelle pas très bien, mais c'est intéressant à lire.